Un voyage, une expérience, un périple, une aventure. Tous ces mots rentrent dans la définition d'une odyssée. Je suis Jérémy Chaleroux et je vais mettre en avant dans ces podcasts les plus belles aventures aux quatre coins du globe. Le but étant de rencontrer des voyageurs et de vous partager leur expérience. Alors, quelle odyssée souhaitez-vous écouter aujourd'hui ? Hey, êtes-vous prêts pour un nouvel épisode captivant ? Avant cela, je suis ravi de vous annoncer le partenariat avec Gobayava, expert de la mobilité internationale et de l'assurance voyage. À tous les aventuriers qui souhaitent découvrir de nouvelles destinations, Gobayava est là pour vous proposer les meilleures assurances voyage. Je les remercie de m'accompagner pour cette nouvelle saison et je vous retrouve à la fin de l'épisode pour un petit cadeau. Maintenant, place à l'épisode.
Allez, c'est parti. Salut Romain, comment tu vas ?
Salut Jérémy, ça va et toi ?
Bah écoute, impeccable, je suis ravi de t'accueillir à domicile.
Ouais, clairement, à Montpellier.
Bienvenue sur Montpellier, bon, t'es montpelliérain aussi, donc pour la petite histoire, on s'était rencontrés lors d'un apéro voyageur avec l'organisation du festival What a Trip, exactement. Et une de tes amies qui m'avait parlé de ton histoire, et t'es arrivé et tu m'as raconté deux, trois trucs, j'ai dit bon, je veux pas trop en savoir, viens, on va faire un épisode. Et te voilà aujourd'hui, donc je suis très ravi de t'avoir, merci beaucoup d'être là.
Eh ben, merci à toi.
Bah écoute, est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît ?
Oui, alors je m'appelle Romain Sériot, j'ai tendance à me présenter comme un photographe, réalisateur, les gens me disent aussi aventurier à côté, voilà, parce qu'en fait, du coup, j'ai tendance à réaliser des films documentaires d'aventure ou d'expédition, du coup, je vais partir dans certains endroits reculés ou pas tant que ça, ça va dépendre. Filmer soit des athlètes de haut niveau ou soit des expéditions qui vont avoir un certain sens pour ensuite en faire un film et le diffuser. Voilà.
Et alors, beaucoup d'aventures déjà, j'en ai sélectionné une qui est là, incroyable, mais j'ai vraiment hâte de la découvrir. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu là, les dates, les lieux, tout ça pour mettre en haleine, tu vois ?
Ok, alors fin 2021, une vingtaine d'aventuriers sont partis en voilier d'Amsterdam pour aller planter un drapeau en Antarctique. Ils ont traversé quatre continents. Et ils ont eu vraiment beaucoup de galères et beaucoup d'espoir, beaucoup de choses intenses et beaucoup de choses magnifiques sur le chemin, bien sûr.
C'est très beau teasing. Donc, mi-2021, tu me dis, reprenons le contexte, comment tu décides comme ça de, du jour au lendemain, partir en voilier, faire une expédition à l'autre bout du monde ?
Alors, alors c'est pas quelque chose que j'ai décidé, comme en fait, beaucoup de mes expéditions, au final, ça s'est présenté à moi dans ma vie. 6 mois auparavant, j'avais lu l'Odyssée de l'Endurance qui raconte l'histoire d'Anna Shackleton et son équipage qui se retrouvent bloqués 630 jours en Antarctique en 1914, après que leur bateau se fait broyer par les glaces. J'ai lu cette histoire un peu d'horreur, d'aventure, et je dis waouh, j'ai envie d'aller en Antarctique.
Ça t'a donné envie.
Ça m'a donné envie, ouais, je sais pas pourquoi. Et il y a une espèce de d'appel, je sais pas qui s'est produit, parce que 6 mois plus tard, on m'a envoyé un message, 22h45, le 19 juillet, je crois, 2021. On m'envoie un message, salut, est-ce que ça te dirait de filmer une famille de hippies qui part d'Amsterdam pour une expédition pour aller en Antarctique ? Ben ouais, clairement, vas-y, donne-moi des détails et j'y vais.
Voilà. Ah ouais, donc c'est vraiment parti de là ?
C'est vraiment parti de rien, ouais.
Et toi, en termes de connaissances voilier, bateau, mer ?
On va dire que j'en avais déjà vu.
D'accord,
ouais.
Vu.
J'avais déjà vu des bateaux de loin, en train de naviguer peut-être, mais pas plus, quoi, depuis la plage, quoi, c'est tout. Voilà, en termes de connaissances, c'est zéro, quoi.
D'accord. Alors, donc, t'as dit oui, au mois de novembre, tu vas sur Amsterdam pour aller vous rencontrer tout l'équipage, ces personnes que tu vas suivre pendant tout ce périple. Comment ça s'est passé, tout ça ?
Alors, en fait, du coup, j'ai d'abord rejoint une semaine à Amsterdam en août. En fait, je suis allé les voir, les rencontrer, pour qu'on voit si ça colle un peu ensemble, que je commence un peu à travailler, prendre des plans du bateau à Amsterdam. Et ensuite, l'équipage est parti d'Amsterdam en mi-novembre. Et moi, je les ai rejoints une semaine plus tard ou 10 jours à Gibraltar.
D'accord. Et cette famille, c'était une famille pas française, du coup. Elle était...
Non. En fait, c'est une famille qui est un peu du monde entier.
OK.
Du coup, en fait, le bateau sur lequel on est s'appelle l'Infinity. Et c'est un bateau qui est détenu, enfin, qui appartient à Clemens Oesreich, qui est un Allemand, parti à 13 ans de chez lui. Pour aller un peu explorer, il a un peu fugué aussi, on va pas se mentir. Ouais. Et puis rapidement, naturellement, il s'est mis à la voile. Et puis un jour, il est tombé sur l'Infinity en 2004 à San Diego. Et c'était une épave, il l'a retapé de ses mains. Et il est parti à Hawaï, il a rencontré sa femme Sage, qui avait fui sa famille des US. Et ensuite, ils ont fait deux enfants sur le bateau, une qui est née au Fidji, une qui est née en Thaïlande. Donc, dire que c'est une famille Pays-Bas ou allemande, c'est un peu compliqué. Voilà, ça, c'est eux qui ont le bateau, qui, du coup, Clemens est celui qui est à l'origine de notre voyage.
D'accord. Alors, petite question, toi, comment ça se fait que... tu m'as raconté cette histoire avec le livre que tu avais lu, etc.
Ouais.
Est-ce qu'il y a quand même un pourquoi à cette expédition, tu vois? Est-ce que toi, il y avait une idée derrière la tête de partir en voyage comme ça pour accompagner une famille, peu importe, mais pour aller justement planter ce drapeau en Antarctique?
Alors, est-ce que moi, il y avait une raison pour moi moi, j'ai toujours été drivé par ce que je connaissais pas, en fait. Avant d'être le garçon qu'on considère un peu comme aventurier, j'étais le garçon qu'on considérait comme peureux et assez, de manière générale, une confiance en soi pas ouf, quoi.
Ouais, manque de confiance en soi.
Voilà, que j'ai combattu par le feu, clairement, en allant grimper des murs de falaises pendant 6 ans, quoi. Et puis ensuite, après ça, je crois que j'ai commencé à avoir un espèce de moteur qui me disait d'aller vers ce qui me faisait peur, d'aller vers les trucs qui me paraissaient inconnus. Et je pense que l'Antarctique, c'est un peu l'inconnu ultime. Donc moi, ma raison de pourquoi j'ai accepté d'aller sur ce bateau-là après le message, c'était, je pense, parce que pour cette raison-là, en fait.
D'accord, tu veux encore une fois peut-être te tester, dépasser tes limites.
C'est ça, mais c'est un appel profond, en fait. C'est pas quelque chose de très conscientisé, en fait.
Ouais, ok. C'est incroyable parce que, enfin, je me mets à ta place. Hein. Tu pars pour une expédition de quasiment 6 mois,
ouais,
mois et demi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà. Sans aucune connaissance dans la mer, la voile, etc. Pour aller planter un drapeau en Antarctique. Enfin, le cadre, déjà, que tu poses, il est incroyable, quoi.
Le cadre est assez ouf, ouais. Ouais, clairement, ouais, c'est ça.
Super. Bah, écoute, est-ce que, on peut, donc tu m'as parlé un peu de cette famille, un peu de tout du monde entier. Toi, il y avait toi en tant que Français. Il y avait combien de personnes à bord et est-ce que tu peux décrire un peu l'équipage?
Ouais, clairement. Alors du coup, au plus haut à Amsterdam, on était 22 personnes. Je crois que c'est plus ou moins 2 chats. Alors je sais pas si c'était 22 plus 2 chats ou 20 ou 22 en considérant les chats, mais on était grosso modo une vingtaine. Équipage entièrement totalement éclectique, personnes qui viennent autant des Pays-Bas, des US, du Sri
Lanka. Ça parle anglais du coup ?
Ouais, anglais, ça parle aussi des fois portugais, ça parle... Enfin, en fait, il y a des groupes de gens, il y en a qui sont allemands, du coup ils parlent allemand, enfin voilà. Mais grosso modo, la langue principale, forcément, c'est l'anglais.
Et seul français, tu étais ?
J'ai été le seul français jusqu'en Gambie. En fait, on a rencontré un français là-bas de Perpignan.
Ok, bah, attends. Ok, on va y revenir.
Mais du coup, grosso modo, pour résumer, profil vraiment du monde entier. On a des gens qui ont de 8 à 61 ans. On a à peu près une parité dans les genres. On a des gens qui sont extrêmement spirituels et d'autres extrêmement factuels. On a en fait absolument tout le spectre du possible dans les profils sur le bateau. Là. Et on a surtout tous un point en commun qui est une abysse profonde en termes de connaissances sur la voile. C'est-à-dire que personne ou presque ne sait naviguer sauf le capitaine et son second. Après, il y a une troisième personne qui avait déjà un peu d'expérience, mais c'est pas vraiment un marin, quoi, tu vois.
Donc, vous êtes une vingtaine de personnes sur ce voilier. Il n'y a que 2 personnes et demie qui ont de l'expérience pour faire traverser...
Pour traverser le monde, c'est ça.
Et ça fait pas flipper, ça ? Enfin, tu t'es pas dit, waouh, c'est un peu chaud quand même, là, non ?
Je me suis dit, on va apprendre, quoi.
Ah ouais ?
Voilà, on va pas couler comme ça, tu vois. Enfin, tu coules pas par magie non plus, quoi. Enfin,
non, mais...
Donc,
ok, non, mais...
Quand on te dit de tirer sur une corde, tu tires sur la corde et aujourd'hui, tu comprends comment elle sert la corde, en fait, quoi.
C'est clair. aujourd'hui, tu serais capable de refaire des nœuds sur le bateau et choses.
Ouais, alors je pense que j'aurais oublié certains nœuds potentiellement. Après, par contre, disons que la théorie globale, je l'ai. Si on me laisse 1 heure avec un voilier, que je vois quelle corde fait quoi, j'arrive à comprendre comment le faire déplacer, quoi.
C'est ouf. Et alors, justement, ce voilier, pour une vingtaine de personnes, il devait être quand même assez, assez balèze. Tu peux nous décrire un peu à quoi il ressemblait ?
Infinity, construit en 1973, donc 50 ans maintenant. Ferro-ciment, donc c'est une coque en béton armé. À l'époque, ils faisaient ça.
Ouais.
120 pieds, donc 36 mètres de long environ, 2 mâts.
Ah oui, ça, 36 mètres, ok.
Ouais, 2 mâts de 25 mètres chacun, coque rouge. Voilà, quoi te dire de plus, c'est un bateau qui n'était pas taillé pour des expats à la base. C'était un bateau qui avait été construit pour faire de la croisière et des loges, en fait, des chambres. Le propriétaire de base, le constructeur, voulait faire des chambres qu'il louait à l'année sur le bateau, en fait.
Ok.
Et finalement, Captain Clements, donc Clements Oestreyer, l'a trouvé du coup à San Diego et s'est dit, tiens, si j'allais faire le passage nord-ouest, aller en Antarctique avec ça, bon, voilà.
Ok, j'ai une question, mais on reviendra sûrement dessus
Ouais.
Juste après, parce que c'est quand même un bateau qui n'est pas prévu pour faire des expéditions.
Ouais, non.
Tu vas en Antarctique, donc il y a de la glace et des choses comme ça.
Ouais.
Bon, ok, on reviendra dessus après. Allez, c'est parti, tu pars d'Amsterdam.
Yes.
C'est quoi un peu le parcours? Tu avais traversé quatre continents.
Ouais.
Alors, comment ça s'est passé un peu tout ça là?
Alors, du coup, je vais te dire les stops en fait.
Ouais.
Amsterdam, après on est Gibraltar.
Gibraltar, ok.
La Palma, donc l'île Canary.
Ok.
Ensuite Gambie, donc c'est au-dessus de Guinée-Bissau, tout ça, Sénégal, enclavé dans le Sénégal.
Ok, donc c'est dans le golfe.
Au-dessus du golfe de Guinée.
Ok, aussi le golfe
Voilà.
de Guinée.
Ensuite Uruguay.
Ah, donc là, vous. Transatlantique.
Transat, voilà, c'est ça. On
Ok.
traverse du coup Uruguay qui est juste au-dessus de l'Argentine, Buenos Aires. Ensuite descente sur le continent blanc. Et ensuite arrivée de l'autre côté, côté Pacifique, en Patagonie chilienne, donc extrême pointe extrême sud de l'Amérique latine, côté Chili.
Voilà, hélas, fin du. Le
Fin du.
bateau est resté là.
Le bateau, enfin, moi je suis resté là. Ensuite, le bateau un jour est parti et là il en a pour 3-4 ans encore, je pense.
D'accord. Ah ouais, c'est incroyable. Ok, donc tout ce parcours-là en 6 mois et demi, je suppose qu'il y a eu des aventures incroyables. Le début s'est bien passé déjà, tout le monde s'est bien familiarisé pour faire de Amsterdam jusqu'à Gibraltar, Las Palmas, etc. Il
Ouais.
n'y a pas eu trop de galères, à longer les côtes, tout ça.
Bah alors du coup moi je les ai rejoints à Gibraltar. Je sais ils ont reçu des bonnes tempêtes un peu extrêmes dans la Golfe de Biscay, je crois, quelque chose comme ça.
D'accord.
Du coup vers la enfin en France quoi, dans la mer un peu au large de la France. Après sinon ouais, Gibraltar, Gambie, c'était assez chill. Un peu trop des fois même.
Et donc la Gambie, il y a quoi à faire en Gambie? Vous êtes juste arrêté et vous avez fait quelque chose?
Alors, on a fait des trucs sympas en Gambie, mais aussi si on s'est arrêté à La Palma, c'est parce qu'il y avait une éruption de volcan depuis 85 jours. Donc, on a fait un détour là-bas, on s'est calé, on s'est brossé les dents devant la lave en fusion, et ensuite on est parti, voilà.
Et c'était
Mais
impressionnant du coup
ouais, c'était sympa, franchement, caler son bateau, puis avoir la glace qui tombe à 500, enfin, non, c'est pas la glace, c'est typiquement la lave. La lave qui tombe à 500 mètres, en sachant que du coup, tu vas aller voir des glaciers plus tard, tu vois, il y a vraiment un contraste. Tu dis, ça, c'est le même voyage. Je vais passer par la lave, par du sable, par de l'Amérique latine, tu vois, peut-être plus vert, tu vois, et ensuite, t'as de la
la
glace.
classe.
C'est vraiment, tu vois tous les biomes, quoi. C'est assez incroyable, tu vois. Donc, en Gambie, nous, on s'est arrêté. En fait, le projet de base, c'est déjà, c'est un pays qui avait qui avait un intérêt pour le capitaine, mais voilà, parce qu'il était déjà arrivé il y a 20 ans et tout ça. Et en gros, ici, on voulait faire des dernières réparations. Donc, ça signifie, en fait, il y avait du béton qui commençait un peu, enfin, du ciment, béton qui commençait un peu, tu sais, à moisir.
Ok.
Après 40 ans, voilà. Du coup, en gros, ils ont refait tout ça. Donc, ils ont fait des trous dans la coque, là où c'était comme ça. Ils ont refait le béton, tout ça. Et on a passé les fêtes de Noël, là-bas. Donc, on s'est retrouvés, je me suis retrouvé sur un fleuve en Gambie. En fait, on a remonté pendant 3 jours le fleuve Gambie, qui fait genre 2 à 3 km de large, qui a un miroir d'eau pure, comme ça. On s'est retrouvé là sous les étoiles qui se reflétaient dans le fleuve, à passer notre nouvel an avec des dauphins d'eau douce qui respiraient autour de nous en dansant sur le bateau en Afrique. C'était pas mal.
Ah ouais,
En termes de nouvel an, voilà.
c'est sympa quand même. Et en termes de météo, il fait bon
Météo, ouais, on était sans doute, je dirais peut-être en hiver gambien, c'est déjà 30 degrés quoi. Ça allait. Il y en avait qui avaient des petits pulls des fois, tu sais, parce que peut-être, voilà, bon, il faisait un peu frais quoi, tu vois, le soir, j'en sais rien. Mais du coup, nous, on n'avait pas besoin de pulls, ça va. Mais ce qu'on était allé faire, en fait, surtout, c'est rejoindre Carlito d'Alcedio, qui est un artiste international, du coup, qui fait des trucs monstrueux. Genre, il a une espèce d'art, je dirais un art tribal, naïf un peu, où il va faire des humains avec des formes et des trucs un peu.
Artiste, tu parles de peinture ou des choses
Ouais,
comme ça?
peinture, c'est ça. Mais lui, après, en tant qu'artiste, il fait de la projection, de la vidéo, de la sculpture, de tout. Il fait tout ce qui existe sur Terre.
Ok.
Mais il fait aussi et surtout de la peinture, quoi. Et en gros, il est venu pour perdre toute la coque, en fait. Et du coup, notre Infinity rouge s'est transformé en Infinity bleu turquoise pour aller avec la glace, du coup, avec des formes, des humains un peu tribales, noirs et blancs dessus qui dansaient, avec des
Génial.
formes d'oiseaux, d'animaux, tout ça. Et là, c'était vrai, ça avait vraiment de la gueule, quoi.
Ah
Donc, c'était
ouais.
ça le projet en Gambie. Et aussi, de chorégraphier avec Livia, qui était une danseuse professionnelle, une cérémonie pour planter le drapeau en Antarctique. Voilà.
D'accord, une cérémonie avec tout l'équipage
Avec tout l'équipage, c'est ça, voilà. D'ailleurs, peut-être, si tu veux pas qu'on parle du drapeau aussi, je sais pas.
Bah, on va y venir.
Pardon,
on va y venir, le drapeau. Parce que le. Oui, je rappelle, l'idée première, c'était vraiment se planter de drapeau en Antarctique, donc oui. Dans ce désert de glace. Donc là, cet arrêt en Gambie, c'était vraiment. Donc, il y avait ce côté artistique avec la coque. Ce côté artistique aussi avec cette chorégraphie. Pourquoi faire une chorégraphie du coup, il y avait quelque chose derrière?
Ouais, en fait, c'est lié à toute la signification, justement, du coup, avec le drapeau, tout ça, en fait.
Bah vas-y, on peut attaquer dessus, alors.
Voilà, ok. En fait, en gros, Clemens, quand je l'ai rejoint, quand j'ai rencontré Clemens, ça faisait 3 ans que le bateau, il dormait à Amsterdam. Lui, Clemens, il a pas trop dormi parce qu'entre-temps, en fait... Il était revenu du passage nord-ouest, du coup, qui est un des passages les plus solides à faire là au-dessus des îles du Canada. En fait, en 2018, il était passé avec son bateau entre toutes les îles du Canada.
D'accord.
Il y avait seulement 2 bateaux qui avaient réussi à le faire cette année, 2 bateaux de plaisance. Et ils avaient planté un drapeau à l'époque qui s'appelle du coup le drapeau de la Terre, ou l'Earth Flag. Et en symbole, voilà, de climat, de paix, d'unification, tout ça, autour d'un seul symbole, d'abolition des frontières, tout ça. Et quand il est rentré, il a fondé à Amsterdam Earth Today, qui est en fait une entreprise qui est à l'origine de l'Union de la Nature, qui est en fait un rassemblement de 9 ONG qui travaillent sur 3 continents.
Okay.
Et ça fait des dizaines d'années qu'elles existent, ces ONG-là, qu'elles travaillent avec les locaux, donc elles connaissent le terrain vraiment. Et en fait, pour la première fois, ces 9 ONG-là communiquent ensemble. Et nous, en tant que particuliers, si on souhaite donner 1,20€ à l'Union de la Nature, déjà, c'est pas nous qui décidons où ça va aller, c'est l'Union de la Nature qui va décider des priorités de là où il faut investir l'argent à ce moment-là.
Mm-hmm.
Et surtout, une des valeurs de Earth Today et de l'Union de la Nature, c'est que si on protège des terres, il y a des chances qu'on les prive des locaux, en fait, des ressources de ces terres-là. Même si souvent, c'est des terres qui sont laissées en jachère ou qui sont abandonnées par des mairies, tout ça. Là, en gros, du coup, 90 centimes de ces 1,20€ vont aussi dans des causes sociales qui vont servir à aider les humains, en fait. Et du coup, l'idée, c'est de créer un système qui permet à la nature d'être protégée tout en ayant une prospérité aussi entre l'homme et la nature, en fait, sans priver les gens de leurs ressources, en fait.
Ok, donc il y a quand même ce côté environnemental, protection, nature, etc.
Voilà.
Mais il y a ce côté sociétal.
Il y a le côté sociétal, c'est ça.
Pour porter de l'aide et d'aider aussi toutes les personnes qui sont concernées par ces terres qu'on protège.
C'est ça, voilà. Et en fait, le drapeau en lui-même, qui est l'étendard de Earth Today, donc le drapeau, le Earth Flag, il représente aussi, du coup, le slogan, c'est One Earth, One Tribe, One Flag. Donc en gros, c'est un drapeau qui représente l'humanité. Donc ça parle, voilà, d'abolition des nations, des frontières, tout ça,
ouais.
De paix générale. Et en fait, il y a tout un message, plus ou moins, on va dire, hippie aussi, autour. Donc voilà. Donc en gros, la cérémonie, elle était là pour venir mettre un cadre à tout ça et chercher une signification et pas juste se ramener en disant bon, drapeau planté, merci, au revoir, voilà, et mettre quelque chose de plus significatif.
D'accord.
En fait.
Et en deux mots, comment était cette cérémonie? Est-ce que tu peux nous décrire? C'est possible de la décrire?
Ouais, la cérémonie, en gros, si tu veux, nous, à la fin, on est tous en cercle, en fait. En gros, ils se sont basés sur 3 mots, ils se sont basés sur soil, soul, society. Donc, en gros, le soil, l'environnement, la terre, notre lien à la terre, la soul, le lien entre
l'esprit,
l'environnement, et notre lien aussi à la société. Donc, en fait, en gros, tout comment ces 3 trucs-là se mélangent ensemble. Et grosso modo, c'est tout le monde en cercle, on a une connexion avec la terre physique, ensuite, on va se lever, on va se tenir les mains, tourner. Enfin, voilà, en gros, c'est des trucs, des gestes assez simples, symboliques.
D'accord.
Quoi.
Ok, super. Donc, vous avez fini préparer cette chorégraphie avec cette personne-là.
En Gambie, ouais.
En Gambie. Et du coup, ensuite, donc, la transatlantique,
Uruguay, c'est ça, ouais.
Et ensuite, Uruguay, vous avez descendu.
On a tracé, ouais.
Directement pour l'Antarctique.
C'est
et c'est ça qui m'intéresse. Alors, l'Antarctique, comment c'est? C'est blanc?
L'Antarctique, c'est très blanc, en effet. Et à la fois très, très nuancé. Beaucoup de couleurs de blanc aussi, d'ailleurs. Faut savoir qu'un des trucs principaux aussi qu'on avait pendant toute l'expédition, c'était une course contre la montre parce qu'on était clairement en retard sur l'hiver antarctique.
Okay.
Faut savoir qu'il y a une time frame, une fenêtre dans laquelle il faut aller en Antarctique qui se termine en mars généralement. Nous, on est parti le 1er avril d'Uruguay et on a eu 20 jours ensuite de bateau. Donc c'est-à-dire qu'on est arrivé quasiment un mois après que les gens partent, quoi. C'est ça, voilà.
Ok.
Donc déjà on est arrivé, et en fait le problème d'une fenêtre comme ça, c'est que après normalement les océans déjà se corsent,
Ouais.
Et ensuite, normalement, on n'est pas censé pouvoir naviguer à cause de la glace, en fait.
Ok, d'accord.
Voilà.
Ouais, donc vous saviez déjà que vous étiez un peu en retard et que ça allait peut-être être compliqué de rallier le continent.
Totalement. Rallier le continent, et on savait pas vraiment si on allait pouvoir naviguer et combien de temps aussi, parce que si les conditions changent en un ou deux jours, on peut rapidement se faire piéger et pas avoir d'issue aussi sur la
Ah,
péninsule. Ouais.
est-ce que vous êtes fait piéger alors par la glace?
On est passé pas loin.
Ouais.
Ouais, on s'est retrouvé à un moment donné. On a dû s'ancrer dans une baie qui s'appelle la baie Paradis, qui est un endroit absolument magnifique, entouré de glaciers, très très beau, mais il est absolument pas conseillé de s'ancrer là-bas, mais nous on était obligés à ce moment-là. Parce que, en gros, c'est un endroit où il y a des courants de marée qui font entrer et sortir de l'eau, mais du coup, quand il y a de la glace de partout autour, ça fait entrer et sortir des icebergs.
Ouais.
Et on était vraiment, ouais, entouré de glace, collé un peu de partout, avec tous ces pancakes de glace un peu de partout autour de nous, avec aussi des icebergs de la taille de ton appartement, voire plus même, qui arrivaient sur la coque, quoi. Sachant qu'on était ancré, du coup, on avait très peu de marge de manœuvre.
D'accord.
En fait, en gros, on poussait les icebergs avec des longs pôles, des longs bâtons de fer depuis le bateau jusqu'à 3 h du matin. Moi, après, je suis allé me coucher. Et je me suis réveillé un peu en panique par Clemens qui criait tout le monde sur le pont, il y a une chaîne de montagnes qui nous arrive dessus, on doit se barrer. Il était
Wow.
6 h du mat, en pleine nuit noire, on allume les moteurs, on lève l'ancre et on essaie de naviguer.
À l'aveugle ou
On navigue à l'aveugle avec des lampes torches, on éclaire les icebergs en face, et on a 3 h, 2 h environ de navigation jusqu'à ce que les lueurs un peu du jour arrivent et qu'on commence à voir, quoi. Et là, on se rend compte que les canaux qu'on voulait emprunter étaient bloqués par la glace. Du coup, j'ai envoyé le drone pour faire du repérage. Enfin, ouais, voilà, c'était.
Waouh, ouais, mais et c'est quoi ton sentiment quand là t'entends le capitaine qui dit tout, dépêchez-vous, tout le monde sur le pont, et tu vois tous ces icebergs, t'es dans la nuit noire, enfin tu paniques ou?
Non, en vrai ça va. Moi je suis caméraman en fait. Donc à ce moment-là, je suis en train de dire waouh, de l'action à filmer. Du coup, je vais filmer l'action et en fait, je réfléchis pas tant que ça quoi. Sur le moment, je réfléchis pas, je filme et puis voilà. Il n'y a pas un danger immédiat non plus.
Oui. Oui, il n'y avait pas le bateau qui était en train de couler, par exemple.
Voilà, c'est ça. On n'est pas dans un truc où on va mourir directement quoi. Après, c'est sûr que si y a un gros iceberg qui vient taper notre coque, c'est un peu plus problématique quoi.
D'accord.
Pour l'instant, l'iceberg n'est pas là. Voilà.
Putain, c'est ouf. Et en termes de climat en Antarctique, même si vous êtes sorti un peu de cette fenêtre, est-ce que il faisait pas trop froid? Enfin, trop froid, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on était
Ouais.
plutôt aux alentours des moins 50, moins 30, moins 10? Enfin.
Ouais. Ben alors en fait, si tu veux, nous, dans notre, on a eu une chance qui est pas tant une chance que ça en fait. C'est qu'on est parti durant une année record en Antarctique. C'est-à-dire qu'à la base Concordia, donc au pôle sud, il y avait une différence de température de 40 degrés au-dessus des normales de saison. Donc au lieu d'avoir moins 57, ils avaient moins 17, ce qui est quand même assez monstrueux en termes de température. Et du coup, dans la péninsule, nous, on se trouvait là, on avait du 0 moins 5, donc très vivable,
Oui.
clairement vivable. Après, des fois, ça descendait un peu plus. Des fois, j'avais clairement froid aux mains, mais sinon, à part ça, c'était pas extrême, quoi. En fait, on a eu un tapis rouge qui s'est déroulé durant toute notre expédition. On a eu une espèce de truc, je sais pas, où je suis très cartésien de manière générale, mais on a eu, je sais pas, une espèce vraiment de tapis rouge de l'univers qui se disait, allez-y, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Même le passage de Drake, qui est connu comme
Ah
étant
oui.
un des passages d'océan les plus vénères au monde. Sauf de temps en temps quand il y a le lac de Drake, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vague du tout. Ben nous on a eu 5 jours de lac de Drake à l'arrivée, juste pour nous dire vraiment allez-y les gars, il y a pas de souci quoi. Et du coup, le fait que ce soit une année record, ça a fait qu'on a pu naviguer librement en Antarctique, bon jusqu'à ce que on descende trop bas, hein,
Ouais.
voilà. Mais sinon, ouais, on n'aurait pas pu naviguer comme ça. Donc ça c'est une chance pour nous, moins pour la planète de manière générale. Mais par contre, je trouve que du coup ça appuie aussi le message de pourquoi est-ce qu'on y est parti quoi.
Une fois que vous avez pu avoir ce tapis rouge devant vous, comme tu dis, et que vous êtes, vous avez pu aller arriver, est-ce que vous aviez un point précis en Antarctique où planter ce drapeau?
Alors non, nous notre but en fait à la base, on voulait pas venir dire c'est notre territoire en fait. On voulait pas voilà avoir ce truc de colon un peu planter un drapeau et dire ceci est notre territoire. Du coup, on cherchait un iceberg sur lequel planter ou sur de la glace de mer parce qu'en 2018 dans le passage nord-ouest, ils avaient planté du coup ça sur de la banquise.
D'accord.
Mais le truc c'est qu'on n'a pas pu trouver ça. Les icebergs ils sont un peu trop engagés. On monte pas sur un iceberg avec 15 personnes pas expérimentées. Enfin pas
Ouais.
possible quoi. Donc on a quand même fait ça sur une micro-île qu'on a trouvée quoi. Mais non, on était vraiment, ça a été vraiment de l'exploration. C'était ça aussi qui était cool. Et moi, en tant que caméraman, j'étais toujours là dans les phases de recherche de lieux. Du coup, même j'étais le premier à poser le pied à terre, donc c'était vraiment super cool. On s'est retrouvé dans un archipel qui s'appelle les îles Melchior, mais qui est assez labyrinthique en fait, dans des canyons de glace comme ça. On a exploré ça dans notre petit bateau à moteur, jusqu'à trouver l'île parfaite avec la vision parfaite, tout l'espace qu'il nous fallait pour faire la cérémonie, voilà. Mais c'était pas prévu, on savait qu'on allait trouver quelque chose, quoi.
D'accord, ouais, il n'y avait pas de point précis, mais finalement, vous avez trouvé le spot idéal, si ouais. Je puis dire, et vous avez pu faire la cérémonie et vraiment partager ce moment avec tous les membres de l'équipage.
Exact, ouais.
C'est ouf. Et quand y a ce planté de drapeau là en Antarctique, qu'est-ce que tu te dis, toi, à ce moment-là? Parce que c'était un peu. C'était l'objectif, quand même.
Ouais. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Genre, à partir de ça, le bateau, il va aller vers le nord, en fait, pour la première fois depuis 6 mois, tu vois. Ça fait 6 mois qu'on va vers le sud, tu vois. Mais ce qui est ouf, c'est. Qu'est-ce que je me dis? Ben, en fait, on est en Antarctique. 30 minutes auparavant, il y avait une Mexicaine qui faisait. Enfin, une Slovaque qui a vécu 17 ans au Mexique et qui faisait une cérémonie maya de feu. Pour nettoyer les esprits. Ensuite, il y a un gars qui a tapé sur son truc de capoeira et chanté en brésilien. Tout ça avec un glacier derrière, tu vois. Et puis là, on est en train de lever un drapeau qui signifie la paix, l'abolition des frontières et avec une cause pour l'environnement. Tu vois, c'est un peu difficile de se dire quelque chose, tu vois.
Non, mais si.
Tu es là comme ça, tu te dis, bon, bah écoute, tu dis, c'est ouf. Voilà, tu te dis ça, tu mets un point à ta phrase et ensuite tu rentres sur le bateau, quoi, tu vois.
Et alors, combien de temps vous êtes resté sur vraiment ce côté antarctique à le parcourir, poser le drapeau et ensuite vous êtes reparti? Vous êtes pas, il n'y a pas forcément besoin de rester.
Ouais.
C'était plutôt prendre des risques à rester coincé, quoi.
Ouais, c'est ça. On est resté 10 jours.
Ok.
On a quand même pu bien profiter de l'Antarctique, franchement. 10 jours, on s'est bien baladé. On a bien pris les blizzards. On a même campé d'ailleurs, sur
ouais.
Terre. On a même fait un petit peu d'alpinisme vite fait. Voilà. Cool, quoi.
Mais c'est enfin, l'expérience doit être vraiment incroyable. Et vous êtes jamais resté bloqué dans la glace, quoi.
On n'est jamais resté bloqué, non. Voilà. Finalement, on a eu cette chance-là, quoi. Enfin, une chance qui est due aussi à une bonne prise de décision du capitaine. Hein.
Et ensuite, direction, tu disais la
Patagonie
chilienne.
Ouais, c'est ça. On s'est dit, je me rappelle d'une conversation et j'étais là avec le capitaine Clemens. J'ai dit. Bah écoute, on l'a fait, quoi, nickel, maintenant il nous reste plus qu'à rentrer. Il a fait, ouais, mais en fait, tu sais, il faut encore qu'on rentre, quoi. Et en fait, il a raison, parce que toujours en alpinisme, ce qu'on dit aussi, c'est le sommet, c'est la moitié du chemin, en fait. Et on l'a bien compris, quoi.
Il restait combien de temps vous avez mis pour faire l'Antarctique jusqu'à rejoindre les côtes de la Patagonie chilienne?
Alors, faut savoir que dans le sens inverse, du coup, Amérique latine, Antarctique, on a mis 5 jours, le retour, on a mis 18.
D'accord.
Il y a eu un x3 qui est parti.
Il y a eu des galères.
Il y a eu des galères assez monstrueuses qui se sont produites, qui ont fait que on s'est basé sur, je sais pas, genre on a été sauvé par du mysticisme à un moment donné. Franchement, c'est juste.
Ah, il s'est passé quoi alors du coup?
En fait, si tu veux, en gros, l'Infinity, c'est pas un bateau gros budget, c'est un bateau qui fonctionne sur du sponsoring, des donations, tout ça, tout ça. Les voiles, ça coûte comme ça coûte facilement 20 000 balles. Du coup, elles ont été données. C'est des voiles qui sont en matériaux nouveaux, super techniques, tout ça, mais qui sont laminées. Donc, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi se délaminer si elles veulent. Et du coup, au cours du voyage, on s'est retrouvé avec des voiles qui avaient des trous régulièrement. Donc, des anciennes voiles, on se servait d'anciennes voiles pour découper des patchs, recoudre, coller, tout ça, tout ça. Bon, au bout d'un moment, il y a une voile qui s'est retrouvée avec 100 patchs quand même. Hein, donc, ça faisait un peu beaucoup, quoi.
Ouais.
Dans la dernière île sur laquelle on est passé, ça s'appelle l'île de la Déception en Antarctique. On est resté 3 jours là-bas. Et on a.
Pourquoi porte ce nom?
Mais si tu veux, pour rentrer dans l'île de la Déception, tu passes les portes de l'enfer. Donc.
Ok, d'accord.
En fait, si tu veux, les portes de l'enfer, il y a une roche à 2 mètres sous l'eau. En fait, c'est 500 mètres de large. En plein milieu, il y a une roche sous le truc. Les bateaux passaient à l'époque.
Ils se prenaient
la roche, ils se faisaient défoncer. Voilà, Charcot qui disait que c'était un piège mortel pour les non-initiés. Voilà, porte de l'enfer, ensuite île de la Déception. Grosse historique là-bas, gros historique.
D'accord, sur le
plus gros cimetière d'Antarctique là-bas. Voilà. Du coup, on s'est retrouvé sur ce bateau-là.
Attends, excuse-moi, tu l'as vu cette pierre du coup? Vous l'avez vue?
Non, t'as pas envie de la voir. Hein.
T'as pas envie de la voir.
Et du coup, en fait, si tu veux, on s'est retrouvé là, sur cette île-là. On a réparé les voiles comme on pouvait, tout ça, tout ça. On part. Et là, en fait, rapidement, déjà, on peut pas faire de progrès nord parce que, ben, en fait, les vents sont pas bons. Du coup, on progresse pas vers le continent, on progresse juste vers l'est.
Ouais.
Enfin, vers l'ouest, pardon. Et on se retrouve, en fait, à avoir des voiles qui se déchirent lentement. Donc la voile principale et la voile.
À se déchirer parce qu'il y avait beaucoup de vent, enfin ça soufflait de ouf.
Il y a ça, et puis il y a
la glace.
Et puis il y a aussi les voiles qui sont en train de mourir en fait, quoi.
D'accord, ok.
On a dans les 4-5 premiers jours, moi j'ai cette habitude, je me lève le matin, je fais bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme trou aujourd'hui, tu vois ? Alors, genre, à quel point le trou a progressé, tu vois ? Et en fait, on essaie de descendre les voiles, on appelle ça reefer en anglais pour protéger. En gros, tu descends la partie. La partie déchirée, et puis tu bloques la voile à cet endroit-là, t'as moins de surface devant, mais tu peux protéger pour pas que ça s'empire. Ça a rien fait. Tous les jours, on riffait plus, mais tous les jours, ça se déchirait plus. Bref, en gros, tu te retrouves quand même à traverser le passage de Drake, qui est un passage d'océan d'environ, disons, plus ou moins 800 km, où t'as trois océans qui se rejoignent, Antarctique, Atlantique et Pacifique, qui est connu pour être une zone constante de dépression sur dépression sur dépression sur dépression, sur l'échelle de Belfort, il me semble. C'est l'échelle qui note les tempêtes de 0 à 12, 12 étant un ouragan. La moyenne là-bas dans le passage de Drake, c'est 8 à 10. Donc c'est solide,
ça souffle, ouais.
Ça souffle sévère. Le capitaine a déjà passé cet océan-là, il avait des vagues de 20 mètres une fois pendant 36 heures. Donc voilà. Et là en plus on est genre un mois et demi, on commence à être un mois et demi après la saison, tu vois. Donc c'est un peu vénère, et là on voit que bah, en fait deux voiles sur trois commencent à se déchirer, et on a encore 800 km d'océan à traverser parce qu'on n'a même pas fait de progrès nord pour l'instant. Du coup on est là comme ça, je me dis ça commence à être un peu complexe quand même, tu vois. Mais bon, pour l'instant il n'y a pas de panique à bord et tout, il y a juste une tension quand même un peu, tu vois, et une fatigue générale due à l'Antarctique. Et puis on se retrouve le sixième jour sous le pont, on m'appelle, on dit ah, Romain, viens, il y a un truc à filmer. Ok, d'accord, j'arrive. Et là, il y a le capitaine qui est en train de tourner le gouvernail, enfin la roue, quoi. Et en fait, il m'explique que voilà, bon bah du coup là, je tourne la roue, c'est bien, mais le gouvernail lui tourne pas, quoi. Donc en gros, c'est-à-dire qu'actuellement, on a un bateau qui n'a pas de voile, sauf la voile avant, et qui n'a pas de gouvernail. Donc en gros, c'est-à-dire que le gouvernail, c'est ce qui sert à orienter le bateau.
Oui.
Et là, du coup, le bateau ne tourne pas. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, je me rappelle, tu sais, il y a la roue qui fait 46 tours, et là, tu vois le compas qui reste pareil, tu vois. Et tu te dis, ok, 800 km d'océan, tempête dans tous les sens. Là, en fait, à un moment donné, je veux bien qu'on ait de la chance ou autre, mais juste, il faut être réaliste, tu vois. On n'est pas dans un film hollywoodien, là, en fait. Il n'y a pas le truc de tu lâches la falaise, on te rattrape la main dans le vide, tu vois. Ça n'existe pas, en fait, tu vois.
C'est ouf. Ok, donc, vous êtes en plein dans le canal de Drake. Puis le gouvernail, une voile sur trois. La tension, ça panique un peu, ça commence à
paniquer. Non, ça panique pas. Moi, je suis plus dans une phase d'acceptation, en mode genre.
Ok.
Mec, juste sois réaliste en fait, quoi. Là, okay. Tu veux faire quoi de plus, quoi, tu vois, genre, c'est pas possible.
Qu'est-ce que vous faites du coup pour éviter le massacre?
Le capitaine, c'est un monstre, c'est un MacGyver. Du coup, il dit bon, écoute, moi demain, je vais plonger dans les vagues. Et je vais essayer d'attacher une corde des deux côtés du gouvernail. Et on va pouvoir essayer de tirer le gouvernail depuis le bateau.
D'accord.
Pour essayer d'orienter le truc. On pourra pas naviguer de ouf. Ça veut dire qu'on pourra pas entrer dans les fjords chiliens. Donc ça veut dire qu'on aura un mois de navigation en plus après, encore après avoir atteint le Chili, pour aller prendre un port qui est facilement atteignable, tu vois. Mais au moins, on pourra potentiellement y arriver, tu vois, en faisant aussi du rationnement au niveau de la bouffe, tout ça. Ok, bon. Le lendemain, il plonge, il s'attache pas au bateau parce que c'est trop dangereux, tu vois. Mais par contre, s'il lâche, eh ben en fait, on pourra jamais aller le retrouver, hein, parce qu'on n'a pas de gouvernail, on n'a pas de voile. Du coup,
le capitaine, il est parti.
Le capitaine, le lendemain, il plonge sous le bateau pour aller attacher avec des mousquetons des cordes sous le gouvernail. Il peut pas s'attacher au bateau parce que le bateau il bouge dans tous les sens, et c'est dangereux de se faire attacher pour.
Mais comment alors il. Il se tient.
Et ben en fait en gros on a trouvé un moyen de réussir à freiner le bateau en faisant avec la voile, on a fait en sorte que le bateau il fasse un dérapage pour être contre les vagues et tout, enfin on...
Ok, en donc gros, le capitaine pour être... il est dans l'eau, quoi.
Il est dans l'eau et on a fait en sorte que le bateau soit à une vitesse qui est nageable en gros, tu vois. Donc en gros voilà, il est dans l'eau, il attache les cordes des deux côtés, on fait passer les trucs et tout, voilà.
Et l'eau elle était
Ouais mais il avait une combinaison, mais bon elle a eu un trou donc il y a l'eau qui part rentrer, oui mais bon voilà.
Putain,
mais
ouf.
Et ensuite, on s'est retrouvé là, et ok, on tire les cordes, on galère de ouf, mais on voit qu'on arrive potentiellement à mettre en cap à un moment donné. Ok, c'est cool, d'accord. Bon, 12 heures plus tard, le mousqueton lâche sous la pression, on n'a toujours plus de gouvernail, et là, on a une semaine de tempête qui arrive. On arrive à trouver une vieille voile qui n'était pas une voile arrière, mais qu'on arrange et qui servira de voile arrière, du coup. Et maintenant qu'on a une voile arrière et une voile avant... On arrive à avoir des points de pression à l'avant et à l'arrière.
Pour orienter,
pour orienter le bateau seulement avec le, avec les voiles, en fait. Ouais. Pas de gouvernail, mais on oriente le truc comme ça. Donc c'est, ça va pas nous faire beaucoup avancer, mais ça nous fait survivre déjà, et surtout on peut s'orienter par rapport aux vagues, tu vois. Parce qu'on a des vagues de 7-8 mètres qui arrivent, et si tu te prends ça de côté comme il faut pas, ça peut être un peu problématique.
Ouais, c'est clair.
Donc en gros, on y arrive, mais c'est vrai que les nuits, en pleine tempête où t'entends les impacts de vagues et comme ça, et tu sais pas trop comment ça va tenir, c'est un peu compliqué, tu vois. Voilà. Après une semaine, on a une accalmie. Et en fait, c'est là que le truc de ouf se passe, en fait. C'est que genre, le capitaine, il se dit, bon, bah, ok, là, j'ai un nouveau système de cordes. En gros, l'idée, c'est de rainer le gouvernail. T'es comme un cheval, quoi, tu vois. Sans mousqueton, du coup, faire une espèce de système de nœud qui va entourer le gouvernail, ouais, pour qu'il n'y ait pas de défaillance, qu'on va tirer et tout ça. Ok, d'accord, on teste ça. Là, il plonge.
Il replonge, ok.
Il replonge, voilà. Et en fait, à ce moment-là, il se rend compte d'un truc qui est genre bien plus urgent et bien plus improbable, en fait. Le problème, on pensait que c'était que le gouvernail s'était dessoudé de l'axe, en fait.
Ok.
Mais en fait, c'est pas ça ce qui s'est passé. C'est quelque chose qu'il avait dit comme absolument impossible. Et c'est, en gros, si tu veux, l'axe, du coup, c'est un axe qui descend comme ça, un gros axe qui descend du gouvernail. Et au bout de cet axe-là, t'as une grosse plaque en fer. Et super épaisse. Et le gouvernail, il a lui aussi une espèce de grosse plaque en fer auquel il est soudé. Et ces deux grosses plaques en fer sont liées par six énormes boulons qui ont des autostops, voire même potentiellement qui étaient soudés, mais ça, c'est pas sûr. Et sur ces six boulons, il y en a eu cinq qui sont barrés. Genre entièrement. Et c'est-à-dire que du coup, on avait les deux plaques qui étaient genre en suspension.
Ok. Ouais, elles étaient plus liées du tout.
Elles étaient plus liées, et en fait, même le dernier boulon qui restait, il avait même pas d'écrou. Et quand j'ai regardé les vidéos GoPro, parce que j'ai mis une GoPro sur le capitaine, il restait 2 mm de filetage de boulon. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernail, les 150-200 kilos du gouvernail, tenaient sur 2 mm de boulon sans écrou, au-dessus de 4000 mètres d'océan. Et c'était genre juste la magie pure de la friction de ces 2 mm qui maintenait les 150 kilos de ferraille de ce gouvernail là. Et à ce moment là du coup, le capitaine est ressorti, il a dit, bon écoutez, là vous allez m'écouter, on va travailler vite, amenez moi tous les boulons que vous trouvez. Tous les boulons sont dépareillés de partout dans l'Infinity, tout le monde s'active, on trouve des trucs, t'es, on lui donne des boulons, des écrous, il va, il descend, il fait non, trop gros, trop petit, trop ci, trop ça, blablabla. Et dès qu'on a un bon gouvernail, il est rouillé, il part dans la salle des moteurs, il y a des gens qui sont dans la salle des moteurs en train de refaire le filetage, tu sais, genre en train de le dérouiller, genre avec des fils de fer et tout comme ça, c'est une chaîne humaine, tu sais.
Ouais.
Bam. Et puis on a le bon écrou, il visse, il arrive à revisser et tout. Et là c'est bon, on a enfin le premier truc qui est sécurisé, du coup ça va peut-être pas tomber enfin, tu vois. Okay. Et puis finalement ça va, au bout d'une demi-heure, on a les six boulons et tout. Et maintenant, surprise, on pensait qu'on allait devoir tirer avec des cordes, tu sais. Et en fait, non. Du coup, maintenant, on a un gouvernail fonctionnel.
Okay.
Et on peut tourner la roue. Et là, on a un moteur, on est sauvé. Bon, en fait, on a quand même toujours on a quand même toujours une grosse voile déchirée. C'est juste le miracle. On peut tourner, tu sais. Enfin, genre, ouais, tout le monde peut tourner, tu vois. Mais genre, même si tu peux tourner dans le passage direct, c'est la merde habituellement, tu vois. T'es pas censé être là en mai, tu vois. Mais bon. Et finalement, bah, écoute, on s'en est sorti. Et j'ai quand même bien mis, 2 jours juste à réaliser, que c'était possible, en fait, d'avoir eu autant de chance, tu vois. Parce que, genre, en gros, nous, ça faisait 5 jours qu'on entendait un grincement un peu comme des trucs de baleine, un peu genre comme ça, qui faisait de plus en plus fort dans le bateau. On disait que c'était le gouvernail qui était librement, ouais, mais en fait c'était le gouvernail qui se dévissait, en fait.
Ah ouais.
Et on a eu l'accalmie au moment nécessaire, quoi, pour que le capitaine plonge, et peut-être qu'une demi-heure plus tard, le gouvernail serait tombé, en fait. On en sait rien.
Ouais,
on a eu 5 jours pendant lesquels on entendait un bruit qui nous disait ça va tomber, les gars, tu vois. Mais on pouvait rien y faire. Et pile ce jour-là.
Heureusement que vous saviez pas ce qui se passait et que vous réalisiez pas, parce que...
Ah, le stress.
Bah ouais.
Mais j'étais déjà assez stressé, hein, franchement, tu sais, quand le gouvernail ne fonctionnait pas, et qu'ensuite ça a pété après les mousquetons, là, toute cette semaine de navigation au voile dans les tempêtes, ok, l'acceptation, ouais, ça va un bon moment, mais en fait, j'étais surtout bien déprimé pendant que, je sais, j'ai passé 4 jours en mode, je faisais rien, quoi. Enfin, tu fais...
Ah, c'est ouf.
Genre, tu sais, t'es là comme ça, tu dis, bon, ok.
Ah, l'expérience de malade, mais ouais. Finalement, après cette expérience assez unique, enfin, ce voyage, c'est plein d'expériences que t'as accumulées.
Ah ouais, clairement, ouais.
Avec des hauts et des bas.
Clairement. Ah ouais, des hauts extrêmement hauts, des bas extrêmement bas, ouais.
Et qu'est-ce que tu ressors, enfin, qu'est-ce que ça t'a appris, cette expédition?
Et moi, ce que
personnellement.
Ça Ouais, personnellement, moi, ce que ça m'a appris, c'est quelque chose qui était absolument inattendu et dont on n'a pas forcément parlé ici. J'ai énormément appris sur les relations humaines. Parce que du coup, je me suis retrouvé avec des gens du monde entier confinés dans un espace très restreint, dans des conditions complexes, de stress, de peur, de X trucs, tu vois. Et malgré tout, pendant les 2 mois qui ont séparé l'Uruguay, l'Antarctique et le Chili, j'ai eu 0 seconde de conflit, tu vois. Genre, j'ai pas eu de conflit, j'ai pas eu de prise de tête avec qui que ce soit. Parce qu'en fait, j'ai appris à avoir une réelle compréhension, une réelle empathie, tu vois. Et en fait, du coup, maintenant, c'est des choses que j'utilise réellement dans la vie de tous les jours, tout le temps, dans mes relations. Et quand je parle de conflit, je parle de même juste le pot de Nutella, il est mal refermé, enfin, tu vois, juste les trucs à la con, tu
Ouais,
vois.
les trucs bêtes.
Tous les trucs qui peuvent te saouler, enfin, genre juste. Et puis aussi, il y a une espèce de truc général où c'est bon, t'as connu pire, tu t'en fous, tu vois. Mais aussi, voilà, j'ai beaucoup appris sur la gestion des relations et l'interpersonnel, quoi.
Non, c'est ouf. Et si demain t'avais le même voyage, on te proposait le même voyage, tu dirais oui sans souci.
Bah, si on proposait le même voyage, c'est-à-dire que c'est un voyage où je rentre en vie, bah écoute, ouais, je suis chaud, tu
C'est
vois.
ça.
Après, mais dans tous les cas, j'ai déjà en tête, j'ai déjà une seconde expédition en Antarctique avec un pote qui lui est champion du 4e mondial en parapente freestyle.
D'accord.
Ouais, dans tous les cas, j'ai déjà un retour en tête en Antarctique dans les quelques années qui suivent, quoi. Ouais.
Ok, bah c'est génial. Donc, une nouvelle, j'allais te demander tes projets, mais finalement, t'as un projet qui se dessine bientôt alors.
Ouais, c'est ça, ouais, voilà, clairement.
Ah, oh, c'est ouf. Ok. Bah, écoute, moi, j'ai une dernière petite question parce que je pose toujours à mes invités et c'est un peu tu vois, le conseil que tu donnerais à toutes les personnes qui souhaiteraient vivre la même expérience que toi.
Ouais.
Après, bon, dans ton cas.
Pas la même, vivez pas la même.
L'expérience est différente, mais j'ai envie de me faire un tour du monde en voilier, tu vois. Comment je dois m'y prendre? Comment on fait ça? Comment t'as fait?
Alors, comment j'ai fait? Moi, du coup, j'ai été mis en contact avec l'Infinity. D'ailleurs, si vous voulez vivre la même au plus proche de ce que j'ai vécu, ben, vous pouvez contacter l'Infinity d'ailleurs même.
D'accord.
L'Infinity se contacte, hein, c'est infinityexpedition.com.
Ouais, on mettra
Vous
les liens
pouvez
de toute façon.
trouver leur mail rapidement. Et en fait, c'est libre. On peut rejoindre librement l'Infinity contre de la sueur et du sang. En fait, on est logé, nourri. Ils sont partis autour du monde pour 3-4 ans là. Après, sinon, quelque chose de moins gros, ben voilà, vous pouvez commencer à apprendre dans votre port le plus proche, aller vous renseigner, l'optimiste, tout ça, pour avoir un petit peu de skills. Et ensuite, aller sur des sites. Je crois que c'est Bourse aux équipiers, Bourse aux coéquipiers, quelque chose comme ça. Pour trouver des bateaux en fait qui sont prêts qui recherchent des équipiers.
Et qui recherchent des équipés qui sont qui ont quelques connaissances. Tu parlais de skills, mais
En vrai non. En
non.
vrai non. Moi j'ai une pote qui est partie d'Australie jusqu'au Vanuatu sans expérience comme ça. Donc ça se fait clairement. En un mois elle a trouvé son bateau. Hein, donc ça se fait vraiment.
Ok, faire du bateau stop, des choses comme ça.
C'est comme du bateau stop sauf que là du coup c'est prévu dans le cadre de ce site là. C'est un peu comme du Blablacar mais gratuit en fait.
Ok, ah, c'est
Voilà.
ouf.
Ouais.
Super. Bah écoute, Romain, je te remercie beaucoup. C'était cool de discuter de cette expérience improbable, de te rencontrer vraiment au hasard au détour
Ouais.
d'un bar. Donc c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Puis bah, je te souhaite très bonne continuation pour la suite.
Eh ben, merci de même.
Allez, salut.
Salut.
Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et de les inscrire sur ce podcast. N'oubliez pas également de vous abonner, vous serez directement informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et pour me montrer votre soutien, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, suivie d'un petit commentaire. Je vous en remercie du fond du cœur. Gobayava est mon partenaire pour cette saison 4 et avec le code promo Odyssée, ODY2S2E, bénéficiez d'une réduction de 5% lors de la souscription de votre contrat d'assurance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.